Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
C'est passé un peu sous le radar hier, mais une motion importante sur la culture a été adoptée hier à l'Assemblée nationale au sujet du fameux projet de loi C10 du fédéral sur la culture. On en discute avec celle qui avait présenté la motion, c'est Catherine Dorion. Bonjour.
Allô?
Députée de Taschereau de Québec solidaire. Alors, pourquoi faire adopter cette motion-là exactement?
C'est une loi qui est en train de se discuter là à Ottawa, là, le projet de loi C10 qui va réglementer les... c'est en train de mettre dans la réglementation des géants du web.
Oui.
C'est que les géants du web, on y va, là, c'est Netflix, Spotify, ils vont nous présenter toutes sortes de musiques du monde entier, puis c'est extraordinaire, on peut aller faire des recherches puis écouter ce qu'on veut. Ceci dit, il y a un problème qui vient avec ça. Puis la liberté doit demeurer totale dans ce qu'on veut écouter, puis dans ce qu'on veut. Mais c'est que c'est un algorithme privé qui nous présente, nous propose des suggestions au fil de nos écoutes. Et évidemment, cet algorithme-là se fout pas mal de la sauvegarde de la culture québécoise. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun préjugé positif envers nos artistes, envers nos... Et ça, ça clash avec...
Il n'y aurait pas moyen d'en développer un, Catherine Dorion? Un algorithme qui se foutrait justement de ces choses importantes?
C'est parmi les choses que veut faire la loi. La loi veut dire aux géants du web, aux plateformes de contenu culturel, dire, écoutez, on veut que nos citoyens soient capables d'écouter ce qu'ils veulent, mais est-ce que vous pourriez pas présenter, par exemple, je donne un exemple sur vos pages d'accueil ou dans vos algorithmes, que vous présentez aux Canadiens et aux Québécois, est-ce que ça pourrait pas être plus, en plus grande proportion de la culture de chez nous? De façon à ce que nous, tu sais, avant, on avait les quotas francophones à la radio, on avait le cadre qui donne une redevance pour financer les films d'ici, tout ça. Tout ça est en train de prendre le bord. Comment notre culture va survivre dans cette immense mer mondialisée de produits culturels de partout? Ben, c'est à ça que peut s'attaquer la loi. Donc, on comprend que pour le Québec, un, c'est en droite ligne avec toute l'historique du combat pour la culture au Québec. Mais en plus, en ce moment, on est vraiment en retard. L'Internet, c'est un vrai tsunami dans nos vies. Fait que si on n'est pas capable de s'assurer qu'on va être présent, nos producteurs de culture, j'ai essayé de les appeler comme ça, disons, nos artistes, nos artisans sont pas là, ben là, c'en est fini. Là, je veux dire, en quelques années, il n'y aura plus personne qui va écouter ce qui se fait. Ça, ben, c'est pas ce qu'on a
fait. Il faut le dire.
Absolument que le Québec...
Est-ce que c'est pas en train d'angliciser complètement toute une génération pour qui ils sont constamment dans une espèce de, je dirais, de classe d'immersion en anglais dans Netflix, Spotify et compagnie?
C'est le problème de la Terre entière en ce moment. C'est un peu comme si on parle des espèces qui disparaissent, des écosystèmes qui sont détruits. Ben, sur le point de vue culturel, la culture, c'est le territoire de l'imaginaire, de la pensée. Ça aussi, c'est attaqué. Puis ça aussi, la diversité est en train de mourir.
Mm-hmm.
Fait que si on protège, le monde entier devrait être en train de faire ce que le Québec fait depuis toujours, de protéger son identité, sa culture, la diversité culturelle, c'est essentiel. Puis oui, effectivement, en ce moment, puis c'est pas de la faute des jeunes, on pourrait dire, vous écoutez juste la musique en anglais. Oui, mais cette excellente musique en anglais, c'est celle qui leur est présentée. Tu sais, on le sait, là, on écoute Netflix, un film signé, il nous en présente un autre.
Mm-hmm.
On se laisse guider un peu par ça. Ben, est-ce qu'on peut pas, nous, collectivement, décider, est-ce que vous pourriez pas nous guider un peu aussi vers ce qui se fait chez nous pour qu'on reste connecté?
Mais ça fait longtemps
que le problème, c'est qu'à Ottawa, tout ça allait rondement parce que ça fait longtemps qu'on a absolument besoin d'une législation comme ça. Puis là, ben, les conservateurs se sont mis dans la tête de faire à croire aux Canadiens que c'était une attaque à la liberté d'expression. Puis ça, c'est de la grosse bullshit, là. Sérieusement, là, ils font de la grosse désinformation en ce moment. Ça a spiné au Canada anglais.
Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une occasion?
Est vraiment moins connecté à son milieu de la culture que nous, là. Fait qu'ils sont plus sensibles à ce genre d'argument fallacieux.
Mais vous qui venez d'Option nationale à l'origine, est-ce que vous n'êtes pas sensible en même temps au fait que Ottawa est en train de mettre la main complètement sur la culture. C'est-à-dire que...
Oui, ça me dérange.
Je veux dire, même Robert Bourassa a réclamé la souveraineté culturelle. C'est un mot, j'avais vérifié, même la CAQ reprend l'expression souveraineté culturelle dans son fameux plan pour les nationalistes du Québec de 2015.
Ça fait pas grand-chose pour, par exemple. Là. Moi, souveraineté culturelle, je suis à fond la caisse là-dedans, mais à chaque fois que j'ai questionné la ministre et que j'ai insisté, faites de quoi, impliquez-vous, exigez ceci et cela du fédéral, c'était « Ah, on attend, on attend. »
Mais là, c'est dans votre motion. J'étais assez content, Catherine Dorion, c'est la première fois que je vois à l'Assemblée nationale quelque chose qui dit, qui rappelle le consensus, comme vous l'écrivez, pour un rapatriement au Québec de tous les pouvoirs en matière de culture. Écoutez, même Jean Charest a réclamé ça.
Oui. Non, mais c'est on n'y arrive pas. Puis même si tout le monde est d'accord, puis dans la souveraineté culturelle, tu sais, ça a été défendu par toutes les parties là. Fait que pourquoi ça arrive pas au Québec? Ben là, écoute, je veux pas dire quelque chose qui vous apparaîtrait démodé, mais c'est parce qu'on n'est pas un pays, puis c'est un des nombreux problèmes du fait de pas être un pays.
Mais j'ai déjà posé la question à Lisa Frulin. Pourquoi ça se faisait pas? Puis elle m'a dit c'est à cause des artistes qui veulent continuer de manger à deux râteliers.
Je ne pense pas que ce soit vrai. Là. Les artistes, la grande majorité des artistes vivent proche du seuil de pauvreté. Puis si Ottawa fait des programmes, donne de l'argent, c'est sûr qu'ils vont déposer des subventions. Moi, je déposais au Conseil des arts du Canada avant de députer régulièrement. Puis je considère que l'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent aussi qui vient du Québec parce qu'on envoie nos impôts à Ottawa. Puis tu sais, on est tout le temps dans une espèce de dichotomie un peu... je veux pas dire schizophrénique, là, parce que... Mais bon, tu sais, il y a quelque chose de... On est pris en deux affaires comme ça, puis on est tout le temps en train de se dire, ben là, comment qu'on fait pour vivre culturellement? Parce que si on veut l'indépendance du Québec, c'est pour sauver la culture québécoise, puis c'est pour aussi avoir une capacité de décider vers où cette culture-là veut s'en aller, comment elle va évoluer, tout ça. Mais en même temps, ben, on est pogné parce que la culture tombe dans une craque. C'est pas une compétence fédérale ou provinciale. C'est les deux peuvent faire ce qu'ils veulent, les deux paliers de gouvernement, mais Internet, ça, c'est le gouvernement fédéral. C'est un gros problème aujourd'hui. Internet, la culture se fait tout avaler par ça en ce moment.
Mais comme me le disait Patrick Taillon, qui est constitutionnaliste et chroniqueur à cette émission, les réglementations en matière de culture, il y en avait au Québec avant un fameux jugement dans les années 80 qui nous a tout enlevé. Ben, au nom de quoi? Au nom d'une vieille réflexion sur la culture qui date de l'époque de l'analogique. Or, dans le numérique, on pourrait peut-être récupérer une bonne partie de ces compétences-là. Est-ce que vous pensez pas que le Bloc québécois, par exemple, à Ottawa, devrait réclamer ça?
Ben, ils font des réclamations quand même. Là, ils exigent qu'il y ait un pourcentage établi de... qui va aller aux productions francophones, dans ce qu'on va aller chercher là, chez les grandes plateformes. Donc, c'est correct, mais c'est sûr que la ferveur du côté de rapatrier des pouvoirs au Québec, que le Québec ait plus de possibilités de déterminer son avenir, tu sais, en culture, c'est la base, c'est le minimum. Là, je veux dire, s'il y a une chose qui nous différencie du reste du Canada, c'est ça. Mais... moi, ce que je vois, c'est que en ce moment, il y a une espèce d'affaissement de cette volonté-là, comme si on s'était tellement fait gêner là, par l'histoire de « Ah, il n'y a plus personne qui veut de la souveraineté. Ah, il n'y a plus personne qui trouve que ça a de l'allure. » Ils nous ont tellement répété ça. Là, on a tellement entendu ça qu'une idée qui a bien du bon sens, qui a de la valeur, qui se tient debout, qui a eu de nombreuses personnes extrêmement intelligentes, extrêmement bien réfléchies, informées, qui l'ont appuyée, qui ont lutté très, très fort pour... Ben, cette idée-là, tout à coup, elle a été salie au fil des années, puis dévalorisée au point où la défendre, c'est gênant, mais ça devrait pas, tu sais, puis moi, je le dis souvent en chambre, là, c'est pas fantasque, c'est pas fou, c'est une des seules avenues efficaces, concrètes, pour continuer d'exister, puis valoriser notre culture, puis puis en faire quelque chose qui évolue, sans nous insécuriser, parce que les cultures évoluent à travers le temps. Tu sais, le Québec, c'est pas le Québec d'il y a 100 ans, puis on est bien content de ça. Ben, ça va continuer d'évoluer, puis il y a des nouveaux apports à chaque décennie, mais on veut sentir que ça se fait entre nous, que le dialogue est ouvert, qu'on n'est pas dans des espèces de luttes de ah, ben, c'est pas nous qui avons le pouvoir. Tu sais, c'est moi, je trouve ça dramatique, mais écoute.
Mais tous les partis sont d'accord. Même Dominique Anglade a repris l'idée de Robert Bourassa de souveraineté culturelle. Donc là, c'est la CAQ. C'est évidemment le Parti québécois le réclame depuis longtemps. Donc, il me semble qu'il y a un consensus, mais on dirait que parce que c'est une chose que tout le monde souhaite, c'est un peu comme la tarification du carbone, on laisse l'État central s'en occuper, alors que ça devrait être l'État québécois qui s'en occupe.
Oui, puis je pense que à l'Assemblée nationale, tu sais, la CAQ en ce moment, c'est elle qui est au pouvoir. Si elle décidait de dire, moi, je vais faire ce combat-là, je vais dire à Ottawa, bon, là, je vais aller chercher un rapport de force avec la population, je vais faire la pédagogie, je vais m'organiser pour que on puisse aller réclamer ça, parce qu'il faut à un moment donné que ce soit nous qui décidions de ces questions-là, puis nous et seulement nous, tu sais, mais ça va demander une quantité appréciable d'énergie. Puis les gouvernements, ben, je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça. Ils réfléchissent pas à long terme. T'sais, nous, on parle d'une question de long terme, de comment dire, nourrir puis rendre vivante plus forte la culture québécoise. Mais c'est ça, les gouvernements pensent à court terme, des choses électoralistes, juste l'histoire du mode de scrutin, le changement de mode de scrutin qui avait été promis par la CAQ, qui a dit « je ferai pas comme Justin Trudeau, puis j'abandonnerai pas ça ». J'ai retrouvé hier en faisant mon feu, l'autre jour en faisant mon feu au camp, à mon chac, là, j'ai retrouvé ça, là, il disait ça, je ferai pas comme Justin Trudeau. Ben, il fait comme Justin Trudeau, il laisse ça de côté parce que il y a d'autres priorités, parce qu'il veut pas penser à long terme, parce que c'est quoi qui, pour lui, est le plus avantageux en ce moment, c'est pas ça. Mais ça dit quand même long sur le véritable désir de défense de la culture québécoise. T'sais, il a fait toute son...
On dirait que ça intéresse pas Sonia Lebel. On dirait que c'est elle qui a le ballon, là, puis on dirait que ça l'intéresse pas.
Ouais, c'est ça.
C'est mon impression.
Parlons
de la fin de semaine. À Québec solidaire, il va y avoir une grosse fin de semaine. Conseil national, certains disent le parti sous le bord d'un schisme, donc entre une gauche plus traditionnelle puis une gauche dite éveillée, pour employer un mot français. Vous, allez-vous voter pour la motion de blâme qui va être déposée contre le collectif antiracisme et décolonisation?
Ben moi je suis pas déléguée là, je sais pas si vous savez
oui.
Que ouais c'est bon, ça fonctionne avec des délégués. Fait que moi je voterai pas en fin de semaine. Ceci dit, c'est sûr que j'appuie là, cette motion là de blâme. Tu sais, un blâme c'est pas on vous décapite là, c'est on vous dit ben c'est pas correct, on aime pas ça. Ça va être les membres qui vont décider ça, tu sais, c'est pas la direction, c'est pas les il va y avoir un vote, puis si les membres disent ben on blâme ça, moi je pense que ça mérite un blâme, ça mérite une demande d'introspection de la part du comité qui est mis sur le spotlight là. Puis tu sais, faut faire attention, on a beaucoup de il y a un schisme, c'est une bagarre, puis là c'est ben hollywoodien là, un groupe contre un autre, mais tu sais c'est un comité constitué de quelques personnes qui, tu sais, puis même si c'est un comité antiraciste, mais t'as beaucoup de militants antiracistes qui sont sortis pour dire ben ce comité-là ne me représente pas. Il y a d'autres courants antiracistes. C'est pluriel, tu sais. Fait que c'est pas le parti divisé en deux, déchiré en deux, pas du tout. C'est une.
Mais on sent que la gauche quand même est écartelée. Là, il y a des penseurs de gauche. Je pense à Pierre Moutarde. Je pense à Marc-André Cyr, même Jonathan Durand-Folco. Oui. Toutes des gens qui écrivent, qui sont très critiques à l'égard de cette nouvelle gauche là. Peut-être que vous banalisez un peu ce qui est en train de se passer.
Ben non, moi je trouve que justement il y a Serge Bouchard hier, tout le monde répétait qu'il avait dit j'aime pas la gauche, la droite, cette séparation là en deux grands camps. En même, tu sais, il y a une affaire, je l'écoutais puis je réfléchissais à ça. On parle de la nouvelle gauche, tel type de gauche, la gauche conservatrice, la gauche ci, la gauche ça. Ce que ça prouve, c'est que quand on s'intéresse à un courant politique, on voit qu'il y a une multiplicité de pensées, que tu peux pas réifier ça en une seule chose. C'est la même chose à droite. On pourrait dire la droite est divisée entre une droite plus raisonnable et la droite
mais on le dit aussi.
La droite haineuse, on le dit aussi, c'est ça. Mais il n'y a pas de frontières claires. Il y a des gens qui vont emprunter des idées à plusieurs de ces groupes qu'on vient de nommer. Puis QS rassemble des gens qui se battent pour la justice sociale, que ce soit une justice entre des gens issus de diverses communautés, justice homme-femme, justice entre les riches et les pauvres, justice pour même le territoire. Là. Fait que il y a ce désir-là qui pousse toutes sortes de monde ensemble. Il y a des gens qui intègrent très bien tous ces enjeux-là. Il y en a d'autres qui sont très, très ciblés sur juste un enjeu, qui connaissent bien cet enjeu-là. Puis bon, c'est moi, je vois ça comme un espèce de bouquet. Il y en a qui, des fois, oui, il y a des querelles, des mésententes ou des chicanes, carrément, entre certains tenant de l'un ou de l'autre de ces idées-là, puis ça fait partie de la démocratie, du débat public. Tu sais, moi, je vois pas ça comme quelque chose qui ne doit pas exister. Ça doit exister. Ça doit exister, puis les gens doivent se sentir libres de parler, puis il faut pas dire à ceux qui pensent pas comme nous, t'es un fou, parce que...
Ouais, mais à un moment donné, des partis, ça se divise. Là, j'ai Marc-André... pas Marc-André, mais Jean-Martin Hossan a quand même créé Option nationale. Donc, des partis, ça se divise, ça arrive, ouais. des schismes. Voyons, je déparle. Des schismes.
Mais oui, ça arrive. Mais ça arrive, mais c'est pas ça qui se passe avec QS en ce moment-là.
Leur méthode, est-ce qu'elle relève de ce que vous avez désigné comme une liberté d'opprimer? Parce que leur méthode, c'était l'intimidation.
Moi, j'ai pas vécu, tu sais, je peux pas parler en mon nom personnel, puis j'aime pas ça parler à troisième, quatrième source, là, faire de le téléphone arabe. Mais ceci dit, j'ai lu des lettres où des gens ont dit je me suis senti intimidée ou des choses qui se rapprochent de ça. Fait que je pense pas à prendre à la légère. Faut pas qu'il y ait ça, justement. S'il y a de l'intimidation, les gens se sentent plus libres de s'exprimer, puis c'est super important, la qualité du débat, le respect, tu sais, pour moi, c'est la base, là. Puis quand ça commence à mal virer, puis à aller dans ce que certains ont dénoncé, là, puis ça, c'est tout le monde peut aller trouver ça, là, ça se trouve sur Internet, là, tu sais, je pense qu'il faut prendre ces assertions-là avec sérieux.
D'où votre appui à la motion de Blanc. Oh,
exact.
Merci beaucoup, Catherine Dorion.
Un grand merci à vous.
Députée de Taschereau de Québec solidaire. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.